en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jacques Pogam.
Bonjour, l'invité de notre série L'Essentiel est aujourd'hui le géographe Jean-Robert Pitt, l'une des personnalités les plus rayonnantes du monde universitaire et dont le moins qu'on puisse dire est qu'il n'a pas peur de prendre ses responsabilités. Jean-Robert Pitt, qui a été en particulier vice-président de l'Université Paris-Sorbonne de 1997 à 2001, puis de 2003 à 2008, président de cette prestigieuse institution. Jean-Robert Pitt, qui a été élu le 3 mars 2008, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, dans la section Histoire et géographie, au fauteuil qu'occupait avant lui un autre grand géographe, Pierre Georges. Jean-Robert Pitt, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci à vous.
Je rappelle le principe de notre série L'Essentiel, cette question récurrente posée donc à tous les invités sur leur itinéraire, leur activité, leur regard sur le monde et notre société, leurs espoirs, leurs échecs et leurs motivations. Alors tout de suite, la première question, dans votre itinéraire professionnel, dans votre carrière, quel a été jusqu'à présent à vos yeux, Jean-Robert Pitt, le moment essentiel?
Oh, je ne sais pas si c'est facile de distinguer un moment d'un autre. Vous savez, l'universitaire est une carrière lente et progressive, parce qu'il faut faire des thèses. Moi, je suis de la génération où il fallait faire 2 thèses. Une thèse de 3e cycle pour devenir maître de conférence et une thèse d'État pour devenir professeur. Donc, c'est des moments importants. J'étais en coopération en Mauritanie dans les années 70. J'ai fait une thèse de 3e cycle sur la Nouakchott, la capitale de la Mauritanie. Et puis après, j'ai travaillé 10 ans sur le Châtaignier. J'ai fait une thèse d'État. Donc, c'est des moments vraiment importants de ma vie. Je suis devenu professeur. C'est un moment important parce que c'est à partir de ce moment-là que l'on peut diriger des recherches. Et donc, ça donne une autre dimension à l'enseignement. Et puis, évidemment, comme j'ai toujours aimé faire de l'administration et créer des projets dans mon université. J'avais créé une université interâge, donc ouverte à tout public. Et puis, bon, au terme d'un certain nombre de postes que j'ai occupés, je suis devenu président en 2003. Évidemment, c'est un moment important de ma vie parce que j'avais participé à la fondation de cette université après 1968, donc c'était en 69-70, en tant qu'étudiant, et qui avait pour but à l'époque un peu de sauver les meubles, c'est-à-dire de dire l'université n'est pas un lieu libertaire, c'est un lieu d'exigence, c'est un lieu où on encadre des étudiants et où on leur apprend des savoirs, des savoir-faire, et tout ça dans une certaine discipline avec du plaisir, l'un n'empêche pas l'autre. Et donc c'est un peu ça que j'ai porté comme valeur, en étant évidemment, comme vous vous en doutez, minoritaire au sein du monde universitaire français, en particulier dans les sciences humaines. Donc, arriver à la présidence de mon université a été un moment de mettre en œuvre des projets que j'avais depuis longtemps. J'y suis parvenu partiellement, comme toujours, et pas toujours suivi par la communauté universitaire, qui est rétive, en général, au changement.
Si j'ai bien fait les comptes, la Sorbonne, c'est 34 ans dans votre vie. Vous arrivez comme...
Oui, j'y étais étudiant.
Assistant en 74.
Ah, j'ai même été étudiant à partir de 66. Donc c'est 34, c'est 44, c'est 40... C'est,
88, c'est... vous êtes professeur de géographie. 97, vice-président. 2003, président.
Oui.
C'est une belle histoire d'amour.
Oui, c'est une belle histoire d'amour. D'amour un tout petit peu déçu, puisque je n'ai pas pu faire un deuxième mandat, en lien en particulier avec les modes de gouvernance actuels des universités françaises. Donc j'ai fait autre chose. Voilà, c'est pourquoi je me
suis... Mais franchement, vous avez pris beaucoup de gens à rebrousse-poil, avec beaucoup de courage d'ailleurs. Hein quand je prends 2 titres de livres, lorsque vous étiez quand même 2006, jeune, on vous ment. 2007, stop à l'arnaque du bac. Dans un monde aussi convenu, où les syndicats ont une telle importance...
Eh bien oui. Oui, mais c'est...
Le chiffon rouge, quoi.
Non, il m'avait semblé qu'étant président, je ne pouvais pas taire mes convictions. Le premier, donc, je l'envouement, je l'ai écrit au moment de la crise du CPE en 2006. Et ce qui m'avait ulcéré à ce moment-là, c'est d'entendre dans les rues des jeunes refuser qu'on leur mette le pied à l'étrier dans l'entreprise. Alors peut-être que ce projet de loi était mal ficelé, qu'il fallait le revoir, mais ce qu'on a entendu à ce moment-là était terrifiant. C'est-à-dire que les jeunes pensaient qu'ils avaient droit, parce qu'ils avaient fait des études à l'université, succès ou pas de succès, peu importe, à un emploi et un CDI. Donc, ce qui est évidemment totalement impensable, totalement irréaliste. Et je me suis un peu dressé contre ça en disant l'université doit non seulement créer le savoir par la recherche, transmettre le savoir par l'enseignement, mais l'université doit aussi aider les étudiants à s'insérer professionnellement. Et donc, tout moyen est bon pour s'insérer professionnellement. Pour cela, il faut que les gens soient orientés, c'est-à-dire qu'on les aide à trouver leur propre orientation. On ne peut pas continuer à pratiquer la sélection par l'échec, qui est un drame en France, où on prend n'importe qui à l'université. Les très bons du lycée vont dans les formations sélectives, il n'y a pas de problème. Ils vont en classe prépa, ils vont en IUT, en BTS, puis ensuite dans les grandes écoles, etc. Il n'y a aucun problème. Mais les moyens et ceux qui sont d'un niveau inférieur rentrent à l'université massivement. Personne ne leur dit qu'il ne faut pas venir ou qu'ils vont échouer. Par conséquent, ils échouent dans des proportions dramatiques, ils décrochent. Et c'est contre cela que je me suis dressé. Donc, quand j'ai écrit l'année d'après « Stop à l'arnaque du bac », c'était l'idée de dire « Arrêtons de penser que c'est bien qu'il y ait 90% de jeunes qui réussissent au bac ». En soi, ça pourrait être bien si le bac avait un niveau. Mais comme on a baissé le niveau du bac de façon à ce qu'il y ait le plus possible de lycéens qui obtiennent ce diplôme, ça n'a plus beaucoup de sens. Donc j'ai plaidé effectivement, et ça c'est de prendre à rebousse-poil une grande partie de l'opinion française, pour une sélection juste et intelligente, et aussi pour des droits d'inscription, compensés évidemment par des bourses et des aides pour ceux qui n'en ont pas les moyens.
Oui, c'est-à-dire que pour vous, le principe d'égalité à tout prix se retourne contre les étudiants.
Bien sûr, c'est un leurre, c'est une mascarade, c'est ce qu'il y a de plus cruel. L'égalitarisme dans la formation, ça aboutit évidemment à favoriser les enfants nés dans un milieu favorisé et éduqué, qui sont donc les enfants de profs et les enfants de bourgeois, pour faire très simple. Donc je pense que ce qui est la vraie conquête démocratique et à laquelle il faut parvenir, c'est l'égalité des chances. Et ça, c'est une autre paire de manches d'y parvenir.
Vous n'avez jamais été tenté par une carrière politique, parce que votre manière de vous engager sans réticence, avec beaucoup de courage, la façon de porter des idées un peu neuves dans un monde hostile, c'est le caractère d'un bon politique quand même.
J'ai été, pas de raison de le cacher, tenté effectivement d'entrer en politique, ou au moins de prendre une carte de parti. Mais comme j'ai été très très souvent déçu par les gouvernements successifs, quels qu'ils soient, qui souvent avaient des projets mais ne les mettaient pas en œuvre, ou n'avaient pas de projet du tout, donc il n'y avait aucune chance qu'ils puissent les mettre en œuvre. Donc j'ai toujours reculé et je suis toujours resté indépendant et je ne le regrette pas. Moyennant quoi, je pense que ce que j'ai fait, c'est de la politique. Mais ce n'est pas de la politique encadrée au sein d'un parti. Oui, bien sûr, oui.
Vous parliez de votre thèse. D'où vous est venu l'amour des châtaigniers ?
Alors là, l'amour du châtaignier n'a rien à voir ni avec ma culture, ni avec ma formation initiale. C'est simplement une idée de mon maître, qui s'appelle Xavier de Planol, qui avait ce sujet en tête depuis longtemps. Et j'appartiens sans doute à la dernière génération qui a accepté un sujet de thèse imposé. Un devoir imposé, c'est quand même 10 ans de ma vie. Alors là non plus, je ne le regrette pas du tout. C'est le mandarina éclairé. Je ne le regrette pas du tout.
L'ombre du châtaignier,
oui. Oui, je ne le regrette pas du tout parce que j'ai découvert des régions d'Europe. Mon sujet portait sur l'ensemble de l'Europe, absolument magnifique.
Très beau livre chez Fayard d'ailleurs, publié en 86, voilà. Terre de Castanie, l'homme et paysage du châtaignier de l'Antiquité à nos jours.
Oui. Voilà, qui a été réimprimé parce que finalement, ce livre un peu érudit sur un arbre qui n'est pas si populaire que ça, c'est épuisé.
Mais qu'est-ce qu'il a d'extraordinaire, cet arbre?
Vous savez, on l'appelait l'arbre à pain, parce que c'est un arbre nourricier. En fait, ce n'est pas un arbre forestier. Son bois est intéressant, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant dans le châtaignier. Ce qu'il y a de plus intéressant, c'est son fruit, à condition que l'arbre soit cultivé. Donc, pour résumer en deux phrases, planter des châtaigniers, vous aurez, si vous êtes en montagne, par exemple sur des terres siliceuses ou des grès avec de très faibles rendements céréaliers, avant la révolution des engrais, planter du châtaignier, vous avez deux fois plus de calories à l'hectare qu'avec du seigle ou du blé noir. Par conséquent, vous nourrissez deux fois plus de monde.
Et votre passion pour la géographie, c'est...
Alors, ma passion pour la géographie, oui, ça remonte à très loin, mais c'est pas une passion m'est venue à l'école, au lycée, etc. Je ne savais pas très bien ce que je voulais faire. Au départ, je voulais être cuisinier, ça c'est certain. Donc, je voulais être cuisinier, on m'en a dissuadé, toujours, une orientation contrariée, orientation volontaire, mais contrariée.
Mais vous êtes vengé.
Donc, je me suis vengé après. Mais donc, de cuisine en tourisme, j'ai évolué vers le tourisme. À l'époque, je me souviens très bien quand j'avais, 13-14 ans, j'avais jamais voyagé en avion, mais on voyait de temps en temps des reportages sur ce qui se passait dans les avions. Le métier de steward me paraissait absolument formidable, vraiment un métier d'une noblesse extraordinaire. Donc je m'étais dit, je voyagerais. J'étais pas sorti de France du tout, ce qui fait que par le biais du tourisme, on dit, tiens, je vais voir s'il y a des professions. C'était le début, dans les années 60, du développement des professions liées au tourisme. Et pour faire ces diplômes qui existaient dans le domaine du tourisme, il fallait commencer par faire de la géographie. Donc je suis rentré en géographie comme ça. Et en première année de fac, ça m'a beaucoup intéressé parce que c'était très différent de ce qu'on enseignait au lycée. Donc j'y suis resté. Je n'avais aucune vocation à être professeur et c'est après ma maîtrise en 70 qui portait sur les vins d'une petite région du centre-est de la France qui s'appelle le Bugey, que mon directeur de maîtrise, qui était Jacqueline Beaujeu-Garnier, m'a dit « Tiens, mais pourquoi vous n'essayeriez pas de passer l'agrégation ?»« Ah bon, mais qu'est-ce que c'est ?» J'ignorais absolument tout. J'ai passé l'agrégation, je l'ai obtenu, je suis resté prof. Donc c'est une série de hasards heureux ou de chances que j'ai saisies. Et je dirais, compte tenu du milieu d'où je viens, que je n'ai réussi ces études que parce que j'avais deux ou trois bons amis à ce moment-là, qui n'étaient pas dans mon milieu familial direct, qui m'ont encadré, m'ont fait lire, en dehors de la fac aussi. Sinon, j'étais destiné à décrocher et à échouer assez rapidement.
Quand vous parlez de milieu, Qu'est-ce qui caractérisait votre milieu d'origine ?
Mon père avait fait 4 ans d'école primaire et ma mère 6 ans. Ma mère avait le certificat d'études. Mon père, qui était né avant la Première Guerre mondiale, ne l'avait pas. Il a dû commencer à travailler en 1918. Et voilà, donc il a terminé son CM1. Moyennant quoi, il écrivait des poèmes et il pratiquait l'imparfait des subjonctifs parce qu'en 4 ans et demi d'études chez les frères des écoles chrétiennes à cette époque, eh bien, on apprenait, on était encadré.
Donc,
et on n'était pas
ouais.
à diminuer le nombre des heures et à penser 4 jours ou 4 jours et demi, ce n'était pas le débat. C'était 40 heures ou 50 heures de cours et dans des classes extrêmement chargées. Mais on apprenait des choses.
Oui, pour comprendre le président que vous avez été, il faut remonter à cela, quoi, à ces racines-là.
Oui, enfin, il y a certainement, comme dans toute vie, il y a une part de...
La grande éducation nationale de la Troisième République, au fond, c'est ça.
Oui, moi, je sors des frères des écoles chrétiennes. Et
c'était un peu la même chose en termes de démarche, non ?
Je pense que c'était, dans les années 50 et 60, un peu plus exigeant. Un peu plus exigeant.
Là, oui.
Donc, ça non plus, je ne regrette pas. Mes parents tenaient à ça, pour des raisons en particulier religieuses. Mais donc, j'ai appris à travailler, incontestablement. En renaclant, mais j'ai appris à travailler. Mais le fait de vouloir poursuivre des études à partir d'un certain moment, le goût m'en a pris, hein, mais j'avais déjà une vingtaine d'années, il y a aussi une part de dépassement du contexte familial en disant, et donc c'est, moi je crois, c'est pourquoi j'ai toujours défendu, et ce que vous dites que je suis provocateur, mais je crois énormément à la méritocratie. Je ne dis pas que je mérite ce qui m'est arrivé et ma présence dans cette maison, mais néanmoins, je pense que c'est la seule chose qui compte, c'est la seule valeur depuis l'Antiquité. Il n'y a pas d'autre valeur. À partir du moment où on ne considère pas que la naissance donne tous les droits. Et même,
oui,
même,
c'est le vrai sens d'aristocratie, quoi. Aristos, le meilleur.
Oui, mais aujourd'hui, on a dans notre pays, en France, une aristocratie qui n'utilise pas ce nom-là, mais enfin, qui les fils d'eux jouent un très très grand rôle. Et je trouve que ça met en péril vraiment notre modèle démocratique et notre devise nationale. Aujourd'hui, l'égalité des chances est vraiment, vraiment mise en péril. Et c'est plus difficile aujourd'hui pour un enfant venu de milieux défavorisés d'arriver à un poste de responsabilité que de mon temps. Et ça, j'en suis extrêmement triste. Extrêmement triste.
Deuxième question récurrente de notre série L'Essentiel. Qu'est-ce qui vous paraît essentiel à dire, Jean-Robert Pitt, sur votre domaine d'activité aujourd'hui ?
Mon domaine d'activité, là, depuis 2 ans, j'exerce les fonctions de délégué à l'information et à l'orientation auprès du Premier ministre. C'est-à-dire que pour faire simple, j'essaye de coordonner la politique d'orientation tout au long de la vie. Et c'est un peu la conséquence de ces essais provocateurs que vous, enfin, vous avez dit provocateurs. Hein.
Je l'ai dit de façon positive.
Oui, hein, non, vous avez raison. Il y avait une part de provocation et puis je ne me suis pas privé de dire ce que je pensais à ce moment-là et dans les médias. Mais donc, après la fin de mon mandat de président, je me suis occupé de gastronomie, on va peut-être en reparler.
Et après,
donc, on m'a proposé en 2010 de prendre ces fonctions qui ont été créées par la loi de 2009 sur la formation tout au long de la vie et qui visent à coordonner les professionnels de l'orientation à l'échelle des territoires entre l'orientation initiale, celle qui est liée à l'école, l'orientation tout au long de la vie qui est liée à Pôle emploi, qui est liée au congé individuel de formation, et donc de faire travailler tous ces gens-là ensemble et de créer un échange d'expériences et de bonnes pratiques entre tous ces professionnels. Donc je suis très content de rebondir de manière positive en disant, bon, puisque la sélection est un tabou dans ce pays, à droite comme à gauche, hein, essayons de mettre quelque chose d'intelligent en place autour d'une orientation qui tienne compte à la fois des capacités, des goûts de chacun et aussi du marché de l'emploi, c'est-à-dire des attentes de la société et de l'économie.
Vous avez d'autant plus le mérite de le faire que dans une communication qui a été très remarquée, c'est le 29 juin 2009 à l'Académie des sciences morales et politiques, sur la loi universitaire de 2007, vous avez déclaré ceci. Les grands partis, les parlementaires et les gouvernements successifs et de couleurs alternées se méfient comme de la peste de l'idée de réformer l'université, comme d'ailleurs de l'éducation nationale en général. Donc ça ne va pas bouger, quoi. Il n'y a pas de raison que ça bouge plus maintenant que...
Non, mais enfin, compte tenu, ici on peut parler très très librement, compte tenu de la couleur politique du gouvernement et de la couleur politique du milieu universitaire et de l'enseignement en général en France, je dirais qu'il n'y a que la gauche qui peut réformer. Je ne sais pas si elle le fera, mais il n'y a que la gauche qui peut réformer. Toute réforme très profonde venue d'un gouvernement de droite est plus ou moins vouée à l'enterrement. La loi LRU, la loi dite Pécresse, que j'avais plutôt soutenue par certains de ses aspects, pas par d'autres, cette loi, au fond, est peu appliquée. Parce qu'il y a une espèce de... Elle a été frappée d'opprobre dès le départ parce qu'elle venait d'un gouvernement de droite. Donc l'idée de donner une autonomie, alors que tout le monde devrait avoir envie d'exercer l'autonomie, l'idée d'avoir une autonomie apparaît comme un scandale aux yeux des communautés universitaires. Et d'avoir des équipes de direction qui soient réellement managériales, comme on dit dans le langage contemporain, en tout cas qui aient du poids et la possibilité de mettre en place un projet et une politique, horrifie absolument les milieux universitaires qui sont parmi les plus conservateurs qui existent dans notre pays et qui sont parmi les plus dominés par une minorité syndicale qui représente peu de choses, mais qui est seule à avoir voix au chapitre. Mais alors, qu'il y a conservatrice à un point inimaginable.
Ce qu'il y a de très curieux quand on observe vos réactions, en fait, vous défendez des thèses que l'on a vues appliquer depuis les années 90 aux Pays-Bas, et que l'on a vues appliquer partiellement au Royaume-Uni,
en Allemagne,
par des gouvernements de gauche.
De gauche.
Alors comment se fait-il qu'ici, c'est quoi,
je pense que ça tient en partie à notre histoire et à cette mauvaise conception de l'égalité.
Ça tient
à notre devise nationale mal comprise. Liberté, égalité, fraternité, ça c'est superbe, à condition que ce ne soit pas la liberté de faire n'importe quoi, que l'égalité ne soit pas l'égalitarisme et que la fraternité ne soit pas tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et on est dans, je dirais, dans une espèce de contexte politique, social, culturel, mou, qui ne crée pas les conditions de la prise de responsabilité individuelle et collective. Et c'est ça qui m'afflige profondément dans notre pays. Moi, je voudrais qu'on éduque les jeunes et les moins jeunes à la responsabilité. On va peut-être parler un peu de vin dans un instant. Le vin, c'est typique. On préfère dans ce pays interdire toute publicité, interdire toute éducation autour du vin parce que c'est de l'alcool, au lieu d'éduquer à la responsabilité. Moyennant quoi, on a des jeunes qui s'alcoolisent copieusement tous les vendredis soirs. Et beaucoup de jeunes de familles modestes, de bonnes familles, éduquées, pas bien éduquées, mais en tout cas, pour qui l'alcoolisme, la défonce du vendredi soir est devenue une sorte d'habitude et presque d'idéal de vie.
De plus en plus.
Oui, mais c'est dramatique. Alors que si on éduque, ce que font les Québécois, par exemple, qui sortent d'un monopole d'État de l'alcool, si on éduque à la responsabilité et à la modération, et donc au plaisir, et donc à la joie de vivre, etc. Et c'est vrai dans tous les domaines.
Un dernier mot concernant votre domaine d'activité là, de départ, la géographie. Comment expliquez-vous que dans l'univers culturel et intellectuel français, il y ait des tas d'historiens que l'on connaisse, et très peu de géographes en fait ?
Alors ça, c'est une longue histoire qui remonte au fait que la géographie a un statut plus récent que l'histoire à l'université. La première chaire de géographie, c'est 1898 ou 1900 avec Vidal de Lablache, que la géographie a été monopolisée longtemps par les militaires qui faisaient la carte d'état-major et par les marins, et que la géographie a été très utilisée comme l'histoire d'ailleurs à des fins politiques pour forger le citoyen français sous la Troisième République. Ça avait commencé avant d'ailleurs sous l'Ancien Régime avec les jésuites, mais former le citoyen. À partir du moment où on a gagné la Première Guerre mondiale, à la limite, il n'y en avait plus besoin. Nous étions vainqueurs, etc. On n'avait plus besoin d'une géographie qui forge l'unité nationale, puisque les tranchées avaient fait l'unité nationale. Donc le résultat, c'est une interprétation qui est imparfaite, mais le résultat, c'est qu'après 1918, la géographie s'est trouvée un peu désemparée. Et de Martonne, qui est un de mes prédécesseurs à la Société de géographie, a tracé, en tant que géographe, les frontières de la Roumanie, de la Hongrie. Enfin, donc, il a dépecé l'Empire austro-hongrois, sans aucune hésitation, d'ailleurs. Il s'est beaucoup trompé, mais enfin, il a fait ça. Et puis après, plus rien. Donc, les géographes ont été complexés, et ils se sont tournés vers, dans l'entre-deux-guerres, une géographie très physique, où seul comptait le relief et le climat. Et puis après la Seconde Guerre mondiale, parce que la majorité des géographes qui tenaient le haut du pavé étaient membres du Parti communiste, une géographie économique, puisque seul l'économie expliquait le monde. Donc on a appris, comme vous avez dû le faire quand vous étiez petit, des millions de tonnes de charbon, de pétrole, des chiffres de population qui ont ennuyé prodigieusement les élèves du lycée et les étudiants. D'où ce contraste, la majorité des étudiants faisant de l'histoire-géographie faisaient de l'histoire majoritairement et subissaient des cours de géographie qui, honnêtement, n'étaient pas toujours très passionnants parce que quand on aime, le XVIIe siècle, être obligé de faire des coupes géologiques pour passer le CAPES ou l'agrégation, c'était vraiment une épreuve très, très, très dure. Aujourd'hui, les choses ont changé, mais la géographie, donc, a beaucoup pâti de ça. Elle s'est enfermée, elle a failli disparaître à plusieurs reprises. Une des dernières fois, c'est lorsque un ministre de l'Éducation nationale, Claude Allègre, voulait la supprimer des programmes du secondaire. Bon, donc ça a fait une certaine émotion dans la communauté. Finalement, la géographie a été sauvée, mais elle est en train d'émerger vers des nouvelles problématiques. Et aujourd'hui, ce qui est bien, je crois, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes géographes qui s'intéressent à des sujets improbables, qui touchent à la vie quotidienne, qui touchent à l'environnement, mais d'une manière originale qui n'est pas celle des anthropologues, celle des sociologues, celle des historiens. Donc j'ai beaucoup d'espoir pour l'avenir de ma discipline.
Mais en toile de fond, il y a quand même toujours eu la géopolitique, le général de Gaulle.
Les géographes, alors là, à l'époque de Gaulle, c'était impossible de prononcer le mot géopolitique ou même de géographie politique. Le seul qui enseignait un peu de géographie politique, c'était encore qu'il est mort assez vite, il était même très âgé déjà à ce moment-là, c'était Siegfried, au Collège de France et à Sciences Po, mais Siegfried n'a jamais été considéré comme un géographe. Et en réalité, il l'est.
L'Angleterre est une île, et petit A une île, petit B entouré d'eau de tous côtés.
et puis le granit vote à droite et le calcaire vote à gauche. On a caricaturé Siegfried, qui était un très grand géographe, mais pas considéré du tout comme un géographe par la communauté de ceux qui portent ce nom-là.
Troisième question récurrente de notre série L'Essentiel, on va élargir les perspectives à votre regard sur l'évolution du monde en général et l'évolution de notre société. Quelle est, Jean-Robert Pitt, l'idée essentielle que vous aimeriez faire passer à ce propos ? Il y a évidemment une part de jeu là-dedans, parce que retenir une idée, bon, mais enfin quand même.
Moi, je fais partie de ceux qui défendent la mondialisation. Je ne considère pas que la mondialisation telle qu'elle existe aujourd'hui est une mauvaise chose. Et je ne crois pas qu'elle va uniformiser la planète, à la fois dans ses paysages, dans ses productions, mais dans les mentalités. Je pense au contraire que la mondialisation est une fantastique opportunité d'échanger des produits, de l'argent, mais aussi des idées à la surface de la Terre. Et que plus on échangera, plus on sera en contact, plus on cherchera à, si on a besoin d'acheter quelque chose à l'étranger, de vendre quelque chose en contrepartie. Plus on prendra des idées à l'étranger, plus on enrichira nous-mêmes, individuellement et collectivement, notre propre culture. Donc je crois que la mondialisation peut être, doit être, au service de la diversité et donc de la richesse de l'expression de l'humanité sur Terre.
C'est ce que vous dites à propos du vin d'ailleurs. Vous dites que c'est la diversité partagée. C'est ça la mondialisation pour vous ? La
diversité. En tout cas, ça ne peut être que ça, sinon, ouais. Sinon on disparaîtra tous de la surface de la Terre. Si on appauvrit ce qu'on appelle la biodiversité, en parlant des plantes et des animaux, mais aussi la biodiversité humaine et ce qu'il y a de plus noble dans l'homme qui est sa liberté, si on appauvrit les cultures humaines, je pense que nous disparaîtrons. Donc il faut le savoir, et la géographie a son rôle à jouer, c'est de dire, regardez comme cette diversité, elle se reproduit en permanence, elle foisonne. Et moi, c'est ce qui me fascine. Et dans le monde du vin, c'est évident que tout le monde dit « Ben non, c'est fini, ça y est, les vins d'appellation contrôlée, c'est trop compliqué en France, il y en a des centaines et des centaines, on va aller vers les vins de cépage. » Là, c'est clair. Pas du tout. Les vins de cépage, oui, aujourd'hui, ils dominent. Parce que se sont développés les vignobles comme ceux de l'Australie, de la Chine, aujourd'hui, des États-Unis. Mais on voit très bien que dans tous ces pays, où l'on fait des vins de cépage donc un peu clonés, un peu passe-partout, qui ont des goûts très nets, mais sans finesse et sans nuance, aujourd'hui, les vrais amateurs demandent. Donc, retournent vers les vins européens qui ressemblent à leur terroir et demandent de la diversité, demandent à être étonnés. Et au fond, c'est pareil pour les idées ou pour la musique. Si vous écoutez le même disque rayé toute la journée sur votre baladeur, ça ne développe pas votre intelligence et ça crée de la lassitude. Donc, il vaut mieux avoir des quantités de musique, si on veut écouter de la musique sur baladeur, des quantités de musique et puis changer tout le temps. C'est quand même plus agréable que d'écouter 100 fois la même chose.
Alors vous pourriez être un adepte à tout craint de Lao Tzu, parce que vous savez, le mot de Lao Tzu, il vaut mieux allumer une bougie que de maudire les ténèbres.
Oui.
Vous aimez créer. Je pense à une chose par rapport au monde d'aujourd'hui, un livre qui a frappé beaucoup de gens, hein, 1983, Histoire du paysage français. Quand on termine ce livre, on n'est pas rassuré pour la suite quand même.
Bah si, parce que j'essaye, mais c'est un péché de jeunesse, hein, ce livre à 30 ans maintenant.
Vous nous dites qu'on est dans la phase de la banalité, du territoire banalisé.
Malheureusement, on a...
Pas rassurant quand même, par rapport à tout ce que vous avez dit sur la phase sacrée, la phase...
C'est un risque et je tire la sonnette d'alarme en disant arrêtons. Mais j'ai été très frappé à cette époque-là où j'enseignais pas mal l'histoire de l'urbanisme, très frappé par le développement des grands ensembles. C'était il y a 30 ans, donc le tout début de la crise, ce qu'on appelle les quartiers sensibles. On appelait ça les grands ensembles à l'époque. Et j'avais découvert, parce que je ne l'avais pas appris à l'université, que ce mode d'urbanisme passe-partout, international, venait d'un document terrifiant qui s'appelle la Charte d'Athènes, dont l'auteur est Le Corbusier, mais il ne l'avait pas écrit seul, il l'avait écrit avec un groupe d'architectes. Et donc j'avais découvert que derrière ce type de paysage cloné, passe-partout, qui est le même à Marseille, à Sarcelles ou à Lille, il y en a 170 en France quand même de ces grands ensembles, qui aujourd'hui cumulent les plus graves problèmes de notre société, parce que dès que les gens peuvent en sortir, ils en sortent. Donc y habitent ceux qui ne peuvent vraiment pas faire autrement. Eh bien, ce n'est pas du tout le hasard, ou pour une raison économique, parce qu'on avait besoin de beaucoup de logements après-guerre, c'est pour une raison idéologique. C'est l'idée que l'homme est un, qu'il doit être de plus en plus homogène dans sa culture et que par conséquent, le faire vivre dans des quartiers qui sont les mêmes, entre l'Inde, la Chine, les États-Unis et l'Europe, eh bien, c'est le moyen de forger l'homme nouveau qui est l'homme cloné.
Oui, grosso modo, c'était totalitaire comme démarche.
C'est un projet totalitaire au dernier degré. Et donc ça, c'est pas rassurant. Je crois qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on ne fait plus ça. Plus personne ne ferait ça. D'ailleurs, même, rappelez-vous, lorsque Valéry Giscard d'Estaing a été élu, il avait pris un ministre de l'équipement qui s'appelle Albin Chalandon. Et Albin Chalandon a créé un système de prêts à très bas taux d'intérêt, comme on l'a fait plusieurs fois en France, permettant de construire des petites maisons qu'on appelait les chalandonnettes. Mais les gens se sont précipités là-dessus, parce qu'ils préféraient habiter une petite maison en carton, pas très luxueuse ni très grande, mais un petit chez-soi. Et donc de quitter le grand ensemble dans lequel la vie était infernale.
Mais vous faites référence à cette période-là, mais la période précédente avec le général de Gaulle, disons que l'aménagement du territoire était une grande idée de la France. Aujourd'hui, On n'entend plus parler d'aménagement du territoire. On a plutôt l'impression qu'on subit l'évolution des choses, qu'on la domine, non ?
Non, je ne suis pas certain. Je pense qu'il
y a véritablement un aménagement du territoire aujourd'hui.
On n'a plus les moyens. Nous sommes en crise depuis longtemps. À l'époque de Général de Gaulle, c'était les Trente Glorieuses. Il y avait de l'argent. L'État avait de l'argent. L'État était très, très, très interventionniste.
Il avait des idées, en plus. Il avait des idées, quand même.
Des idées, pas forcément bonnes, mais il en avait. Très interventionniste. Le général, un peu, quand même, il ne le disait pas parce que ce n'était pas son caractère de reconnaître quoi que ce soit, qui que ce soit d'autre, mais avait été très aidé par les Américains, le plan Marshall. Et tout le monde était fasciné par ce que les Américains avaient réussi, mais aussi, sans se l'avouer jamais, parce que des régimes alors totalitaires avaient réussi en matière de réseaux d'autoroutes avec les nazis ou les fascistes italiens, ou de villes nouvelles avec les Russes, de grands barrages, de politiques. Donc tout le monde était, quel que soit le bord politique, fasciné par cette espèce d'interventionnisme, cette puissance donnée par la technologie moderne et par les gouvernements forts. Donc le général, quand il survole la banlieue parisienne en hélicoptère avec le préfet de l'Ouvrier, qu'il découvre cet univers bon kafkaïen, dit, pardon d'utiliser un gros mot, mais c'est, on le prête au général de Gaulle, de l'Ouvrier, mettez-moi un peu d'ordre dans ce bordel. Et de l'Ouvrier, donc, fait créer les villes nouvelles, trace des réseaux d'autoroutes, limite l'urbanisation pour éviter que ce soit en tache d'huile, et donc prend le territoire à bras-le-corps. Depuis, il y a eu la décentralisation, depuis, il y a eu le développement des mouvements écologistes, le fait que le syndrome qu'on appelle le NIMBY, Not in my backyard, les équipements, oui, mais pas chez moi, ou pas à côté de chez moi. Donc, ce syndrome qui est très, très fort, ces mouvements de consommateurs, d'habitants, font qu'aujourd'hui, on ne pourrait plus tracer de nouvelles grandes lignes de TGV, sauf dans les régions les plus,
oui, mais qu'est-ce
les
qui
plus
va se passer,
désertes de France.
Qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que ça va être une forme d'anarchie dans le développement?
Non, on va faire des choses beaucoup plus légères, d'abord parce qu'on n'a pas les moyens de faire plus, et beaucoup plus de proximité, ce qui n'est pas mal. Finalement, d'entretenir le paysage de manière délicate plutôt que de tracer des grandes autoroutes, des grandes TGV, je pense qu'on n'en a plus beaucoup besoin maintenant. On a notre réseau de centrales nucléaires, critiqué par certains, mais on a la chance de l'avoir, je considère. Bon, donc on n'a plus besoin de construire beaucoup de centrales nucléaires, et je pense que ce qu'on fera dans ce domaine-là par la suite sera beaucoup plus doux, moins dangereux, donc il n'y aura aucun problème. On ne va plus construire de grands barrages, d'ailleurs il n'y a plus de sites qu'on peut équiper en France, mais personne n'en voudrait, vous imaginez. La France est à peu près couverte d'autoroutes, il reste encore quelques régions à traverser. Les réseaux TGV, bon, il faut faire encore quelques progrès, mais vous savez à quel point c'est difficile et cher, parce qu'il faut exproprier, et tout le monde est contre. On ne peut pas avoir un TGV passant dans son jardin. Donc je pense qu'on va vers des aménagements plus fins, et ce n'est pas forcément mauvais pour le cadre de vie des Français, pour la qualité de la vie en France.
Quatrième question récurrente de notre série L'Essentiel. Pour vous, Jean-Robert Pitt, quelle est la plus grande hypocrisie de notre temps ?
Oh, mais il y en a tellement.
Certes.
Tellement d'hypocrisie. Je ne sais pas, une chose qui me vient à l'esprit, c'est l'attitude des Français vis-à-vis de l'État, par exemple. Dès que l'État intervient de manière un peu ferme, les Français sont dans la rue et en même temps, ils attendent tout de l'État. Donc, ils trouvent qu'ils payent trop d'impôts, mais en même temps, ils ne seraient pas contre qu'on passe à 70% de prélèvements obligatoires, ce qui permettrait à l'État de donner encore plus d'aide à tout le monde. Donc, je trouve que la grande hypocrisie, elle est dans cette espèce de revendication permanente qui fait partie du caractère français depuis fort longtemps. Ça remonte même avant la Révolution, de revendication permanente et de refus absolu de prendre ses responsabilités. Donc, j'en reviens à ce concept de responsabilité.
Si je prends
les Français ont peur de ça.
Si je prends ces deux phrases, ça peut s'appliquer à peu près littéralement à l'attitude des syndicats face à vous dans les années 2006-2008, non ?
Oui, tout à fait. Tout à fait. J'assume pleinement et je ne suis jamais privé de leur dire ce que je pensais de leur attitude et en particulier de les traiter. Ce n'est pas les syndicats en tant que tels, parce qu'en Allemagne, il y a des syndicats et qui jouent un rôle très, très positif, qui sont des vrais interlocuteurs. Le problème, c'est qu'un syndicaliste en France, en particulier à l'Éducation nationale, tient un discours dans le bureau du ministre. Le ministre arrive à peu près à s'entendre avec lui, et dès qu'il sort, il dit le contraire à ses troupes, et il fait descendre les gens dans la rue. Et j'ai des témoignages précis d'anciens ministres qui le confirment, et de différents bords. Donc, je trouve qu'il y a là quelque chose qui n'est pas raisonnable, et qui fait partie de...
On va sortir de ça, parce que je vous relance là-dessus, parce que c'est... Il va falloir subir ça...
Écoutez, je ne sais pas si on peut s'en sortir ou pas, mais enfin...
Il faut une poigne de gauche, quoi, si j'ai bien compris.
Ça pourrait sembler plus facile, mais regardez, puisque vous prenez un exemple à gauche, Claude Allègre, qui ne fait pas dans la délicatesse, a tenu des propos sur l'éducation nationale qui étaient des propos de bon sens, dits plutôt méchamment et de manière agressive, mais des propos de bon sens sur le fond. Simplement, et donc lui, il ne l'a pas fait, il n'a pas mis en œuvre les réformes auxquelles il aspirait. et on l'en a empêché. Supposé qu'il ait voulu le faire, on en aurait empêché. Donc il y a quand même toujours ce problème de l'action politique en France et cette peur de la rue et cette idée que, bon, de toute façon, ils peuvent nous imposer ce qu'ils veulent, mais si on ne veut pas, on descendra dans la rue. Et ça fait peur. Tout gouvernement a peur de la rue. Et ça bloque beaucoup, beaucoup de réformes, même quand il y a de la bonne volonté. Il y a souvent de la bonne volonté chez les hommes politiques. Moi, je ne suis pas du tout pour cette idée selon laquelle bon, tout se pourrit. Vous savez, ça se dit couramment. Les politiques. Oui. Pas du tout. J'admire énormément. J'ai toujours dit à mes étudiants, vous critiquez les politiques, bon, fort bien, bah, faites-en vous-même, prenez leur place. Militez, faites-vous élire et puis faites des choses. Mais il ne faut pas attendre tout de l'État et en même temps refuser de prendre soi-même, se retrousser les manches et prendre ses responsabilités. J'aime beaucoup la phrase de Kennedy. J'aime pas tout chez Kennedy, mais j'aime beaucoup cette phrase. Au lieu de vous demander ce que votre pays peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Bon, ça, c'est la mentalité anglo-saxonne, américaine. C'est lié en partie à la culture protestante, qui a quelques inconvénients, mais aussi quelques bienfaits, quelques bons côtés qu'on trouve en Europe du Nord. Et il y a une mauvaise compréhension dans les pays latins, qui n'est pas du tout l'héritage romain, ni même l'héritage de l'Évangile interprété de la manière catholique, mais qui fait que souvent, on reporte la faute sur les autres. Là, c'est une des choses, moi, qui me fascine et que j'ai envie d'étudier dans les années à venir. C'est les fondements culturels de ce mal français. Perfit avait bien vu ces choses-là dans son livre admirable Le mal français. Il avait très très bien vu, mais et pourtant il a été au pouvoir, et y compris à l'éducation nationale. Mais qu'est-ce qu'il a pu faire? Rien.
Cinquième question récurrente de notre série L'Essentiel. Quel est l'événement de ces dernières années ou la tendance apparue ces dernières années qui vous laisse, Jean-Robert Pitt, le plus d'espoir?
Ce qui me laisse le plus d'espoir, c'est de voir qu'il y a un certain nombre de jeunes qui créent des entreprises, qui travaillent, qui ont une vision positive du monde, qui partent travailler à l'étranger, puis reviennent en France. C'est un milieu que je connais bien, qui est le milieu de la vigne et du vin, de voir le nombre extraordinaire de jeunes vignerons qui vraiment font des efforts pour faire le meilleur vin possible, gérer l'environnement de la manière la plus propre possible, en même temps être bons commerçants, sensibles, cultivés, parlant plusieurs langues, voyageant dans le monde entier et au total, vivant extrêmement bien et dans un environnement avec lequel ils sont en prise, c'est eux qui le créent. Ils fabriquent du paysage et ils en vivent. Donc ça me rassure beaucoup. Mais de même, quand je vois des jeunes qui sortent de 3 ou 4 ans d'école de commerce, qui partent à Londres ou à Shanghai, qui apprennent le chinois, puis qui créent leur entreprise, qui font des choses de leurs 10 doigts, qui se prennent en main. Mais je trouve que malheureusement, ils sont encore trop minoritaires en France et trop de gens disent « c'est pas pour moi, c'est pas possible, je n'y arriverai jamais ». Par conséquent, c'est de la faute, ça c'est le bouc émissaire, c'est de la faute d'un tel, c'est de la faute du système, c'est de la faute des banques, c'est de la faute de l'Europe, tout ce qu'on veut, on cherche des boucs émissaires partout, au lieu de se prendre en main soi-même.
Sixième question récurrente de notre série L'Essentiel, quel a été, Jean-Robert Pitt, le plus grand échec de votre vie et comment l'avez-vous surmonté ou avez-vous tenté de le surmonter? Vous avez droit à un joker, mais je ne pense pas que vous l'utilisiez avec la personnalité que vous avez.
Grand échec, j'ai connu comme tout le monde, plein d'échecs dans ma vie.
Qui vous a le plus marqué?
Écoutez, j'ai plutôt des choses dans mon histoire récente. C'est certain que le fait de ne pas avoir été réélu à Paris-Sorbonne m'a marqué. J'ai rebondi assez vite et surtout, je me suis bien gardé de tomber dans l'amorosité, dans la rancœur, dans l'esprit de vengeance. Donc j'ai fermé cette page de quelques 4 décennies dans mon université. Je n'y suis pas beaucoup revenu. Je ne regrette pas du tout ni ce que j'ai fait pendant ces 40 ans, ni même la raison pour laquelle je n'ai pas été réélu. Mais c'est un échec, incontestablement.
Oui. Mais ça n'aurait pas,
vous présentez à une élection, vous n'êtes pas élu, c'est un échec.
Oui, mais ça ne pouvait pas se passer autrement et vous le saviez. C'est-à-dire que, quelque part, votre idée du service public a dominé votre intérêt.
J'ai cru que ça marcherait.
Bon, vous avez cru que ça marcherait?
J'ai cru qu'il y a un concours
malgré
de circonstances.
Malgré toute l'analyse que vous avez développée depuis une heure.
Parce que j'ai passé ma vie pendant 5 ans où j'étais président à essayer de convaincre
de
mes collègues.
De faire changer les choses.
Et,
mais vous feriez la même chose aujourd'hui.
Ah, absolument, encore plus même. Je pense plutôt. Moi, j'ai plutôt le souvenir des choses qui ont bien marché. Puisque quand j'ai échoué dans cette tentative, je venais d'être élu un mois avant membre de cette Académie des sciences morales et politiques. Donc, ça m'a conforté. Et je sais que, parce qu'un certain nombre de confrères me l'ont dit, qu'une des raisons pour lesquelles ils ont voté pour moi, c'est pas par amour spécifique de la géographie, mais c'est pour les propos que j'avais tenus sur l'université et sur la société. Donc, je les en remercie infiniment. Donc, non, je vois plutôt les choses que j'ai réussies, comme d'avoir créé une antenne de Paris-Sorbonne à Abu Dhabi, en plein monde arabe, avec liberté d'expression, langue française, rapportant de l'argent, mixte, laïque, etc. Donc ça, j'étais vraiment, vraiment content. Je vois plutôt les choses bonnes qui se sont produites. Pour le reste, mes échecs sont plutôt des échecs économiques. Je fais partie, là encore, puisqu'on parlait de religion, de cette mentalité catholique. Moi, j'ai un défaut, c'est que je sais dépenser l'argent et que je ne sais pas bien le gagner. Mais est-ce que c'est un échec ?
Septième et dernière question récurrente de notre série L'Essentiel. Jean-Robert Pitt, aujourd'hui, quelle est votre motivation essentielle dans la vie ?
Ah ben, motivation essentielle, c'est d'essayer d'avancer, toujours d'avancer, de jamais rester les deux pieds dans le même sabot et d'avoir toujours trois projets menés à bien. Alors en sachant qu'il y aura du déchet, il y en a que je n'arriverai pas à mener à bien. Mais enfin, ma motivation, je ne sais pas ce qu'elle est, mais enfin, je suis remonté comme une horloge automatique. Et donc plus je bouge, plus ça remonte, l'horloge.
Voilà. Il y a une chose qui frappe.
Donc j'ai quand même aussi, oui. C'est pas une motivation, mais j'ai aussi l'idée que j'ai fait inscrire sur mon épée d'académicien, une phrase qu'on prête à Saint-François de Sales, il faut soigner le corps pour que l'âme s'y plaise. Donc je pense qu'un peu de bien-être, de plaisir, de joie de vivre, ça aide à supporter la vallée des larmes.
Justement, moi ce qui me frappe quand je regarde votre itinéraire, c'est de voir l'insistance avec laquelle vous cherchez à montrer le lien très fort qui existe entre culture, terroir et plaisir.
Oui.
C'est une constante chez vous, ça. Culture, terroir, plaisir,
mais
ça va ensemble.
Alors ça, j'ai essayé de creuser ça, de savoir pourquoi, d'où ça me vient.
Oui, c'est
donc,
ça.
Donc j'ai cette réputation depuis le jour de ma naissance. Je suis né dans une maternité de Paris qui était tenue par des religieuses. Et la religieuse, paraît-il, c'était Cognac Jay. Beaucoup de jeunes Parisiens sont nés de ma génération. C'était une maternité assez modèle sur le plan de l'hygiène, d'ailleurs, à l'époque. Et ma mère disait toujours que la religieuse était étonnée de mon appétit constant alors que j'avais trois jours. Donc vraiment, c'était un motif d'étonnement pour cette religieuse. Et c'est vrai que j'ai toujours été d'une gourmandise extrême. Donc j'essaye de me contenir, mais c'est pas toujours facile. D'où cette passion pour la cuisine qui fait partie des valeurs familiales aussi, transmises par une arrière-grand-mère alsacienne à ma mère. Et quand j'ai commencé à comprendre un peu, c'était en terminale, Pascal, cette phrase que peu de gens comprennent, qui veut faire l'ange fait la bête, après en essayant de creuser, je me suis dit, mais oui, mais nous ne sommes pas des anges. Et malheureusement, dans le monde universitaire, en dehors de toute question de foi religieuse, les gens sont souvent de purs intellectuels, de purs esprits, et ne vivent que pour la vie intellectuelle, négligeant le plaisir, le corps, etc. Leur seul plaisir, c'est de sortir un article, par exemple, d'une très grande érudition, sans se préoccuper de la réception de celui-ci. C'est-à-dire que ce sont des chercheurs, pas des professeurs. Donc moi, ce qui me passionne, c'est d'arriver à trouver des choses et de les faire partager, parce que je ne pourrais pas faire autrement. Ce n'est pas par abnégation, par esprit charité chrétienne, c'est parce que j'en ai besoin.
Besoin personnel, quoi.
Oui, c'est oui, ça, voilà, ça. J'en ai besoin. Alors, et je trouve ça, et j'ai de la chance. J'ai de la chance parce que j'ai, au fond, le moral. Je ne sais pas si j'ai de la morale, mais j'ai le moral.
Vous êtes depuis 2008 le président de la mission pour le patrimoine alimentaire français. Est-ce que le développement un peu partout en France, de ces bistrots de qualité qui associent tradition et modernité, en même temps le succès extraordinaire des émissions de concours culinaires à la télévision, c'est un phénomène culturel ?
Ah oui, c'est un phénomène culturel et je m'en réjouis.
Oui,
je m'en réjouis infiniment.
Comment vous l'interprétez, ça ?
Ça, c'est une réaction. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait de la mondialisation, donc de la McDonaldisation du monde, on pourrait dire. Et c'est une réaction à ça. Alors, bon, il n'y a plus du tout cette idée que faire la cuisine, dans ma génération, quand j'étais jeune, faire la cuisine, c'était pour les filles.
Ça, c'est clair. Oui.
Et il n'y avait pas beaucoup d'hommes qui cuisinaient à la maison. Il y avait des grands chefs.
Après une confidence, je ne sais toujours pas le faire.
Oui, mais ça s'apprend. Hein. Vous ne pouvez pas rester comme ça. Je vais vous prendre en main.
Et bon, et avec plaisir.
Il y avait des grands chefs qui étaient des hommes, en général, mais c'était un métier de chien. Et la cuisine régionale, familiale, populaire, c'était le domaine des femmes. Tout ça a disparu dans les années 70 à peu près, et de plus en plus de jeunes cadres mangent n'importe quoi dans la semaine, mais souvent le dimanche, c'est eux qui font la cuisine et ça se passe très bien, ou ils partagent avec leurs femmes. En tout cas, l'idée d'un homme qui cuisine n'est plus du tout une idée scandaleuse, c'est pas une atteinte à sa virilité. Et alors, ces émissions montrent, tous ces bistrots que vous évoquez, montrent qu'il y a aujourd'hui une espèce de réaction contre cette uniformisation de l'alimentation qui est liée au fait qu'en France, on est le pays au monde où la grande distribution a le plus de place. Je sais qu'on peut, dans la grande distribution, arriver à faire des choix, bien acheter des bons produits, à bien se nourrir.
Il y a de bonnes foires au vin, quand même.
On pourrait reparler des foires au vin. Là, on ne veut pas avoir peut-être non, temps. Non, mais souvent, les gens n'ont pas d'éducation à l'achat. Donc, ils vont à la facilité en se disant « je n'ai pas le temps de cuisiner, etc. C'est ennuyeux. » Puis après tout, puisqu'on me fait des barquettes surgelées ou frais sous vide qui sont des plats tout prêts ou des briques de soupe qui ne sont pas si mauvaises que ça, je vais acheter ça. Mais on s'en lasse. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de consommer de la soupe en brique. C'est souvent pas mal fait. Mais alors là, pour le coup, c'est un disque rayé parce que c'est toujours le même goût. Essayez par exemple le gazpacho. C'est très bien fait avec des composants de bonne qualité, mais c'est toujours le même goût. Donc si trois jours de suite, vous prenez votre gazpacho, vous ne pouvez plus le voir en peinture. C'est pareil pour les hamburgers, pareil pour le Coca-Cola. Donc tout ce qui est nourriture industrielle crée à la fois de l'addiction parce qu'il y a des produits faits du sucre, de l'alcool, dans certains cas, des glutamates, enfin des produits addictifs. Et donc, pouvez arriver au dégoût. Et à ce moment-là, vous vous reportez vers la saucisse au chou de votre grand-mère, vers la crêpe bretonne, selon votre région, la saucisse corse, si vous avez des origines corse, et vous trouvez que c'est absolument merveilleux. Et c'est vrai que c'est un remède à l'uniformisation du monde. Donc, oui,
c'est une signification culturelle profonde.
Le grand saucisson, le bon camembert ou les crus, c'est un véritable antidote d'une mondialisation inhumaine. Mais c'est en même temps un viatique pour aller vers une mondialisation à visage humain. Parce que si vous vendez, quand je vois à Taipei, Taïwan, un grand magasin en Asie, les rayons alimentation sont au sous-sol des grands magasins. Quand je vois un rayon fromage extraordinaire, avec tous les meilleurs fromages français ou les crus en parfait état, dans le sous-sol d'une grande surface de Taipei, je me dis, chapeau, voilà la mondialisation, heureuse.
Alors vous êtes membre donc de l'Académie du vin de France. On peut dire que vous êtes l'une des deux ou trois personnes en France qui parlait le mieux du vin. Pour vous, on ne peut pas comprendre l'esprit français si on ne fait pas référence au vin. Enfin, c'est...
Oui, c'est clair. C'est pour ça. Voilà, vous parliez, un paradoxe. Vous voyez, ouais. Le pays dont le vin fait intimement partie de la culture, qui a inventé les appellations d'origine contrôlée, qui a des centaines de variétés de vins différents ressemblant à leur terroir et des dizaines de milliers si on considère que chaque vigneron fait le vin selon ses méthodes et selon sa propre culture et sa propre sensibilité. Eh bien, dans ce pays-là, c'est là où on développe le plus l'esprit de prohibition, ce qui est une folie absolue. Voilà,
là, on est dans les paradoxes français. Oui, c'est ça que vous évoquiez tout à l'heure.
Paradoxe français où l'État se mêle de ce qu'il ne regarde pas et ne cherche pas à éduquer, mais à donner c'est oui ou non. Voilà. Donc, le vin est profondément ancré dans notre culture. Et quand, au sein de la Mission française du patrimoine et des cultures alimentaires, association qui a été créée pour porter le dossier de classement du repas gastronomique français au patrimoine de l'UNESCO, on a évidemment donné une grande place au vin, puisque une des spécificités du repas gastronomique français, c'est le mariage du solide et du liquide, le mariage des mets et des vins, ou dans certaines régions, du cidre ou de la bière, mais essentiellement des mets et des vins. Et ça, c'est d'une richesse extraordinaire. Quand vous avez, par exemple, une poularde, un poulet, si vous n'avez pas les moyens de vous acheter une poularde, un poulet aux morilles et au vin jaune et à la crème, et que vous avez une bouteille de vin jaune à côté, c'est un mariage à se damner.
À se damner, ou à croire au ciel. Vous le dites bien, parce que franchement, vous mettez la barre très haut. Hein. 2004, un livre intitulé « Le vin et le divin ». Pour vous, le vin, c'est vraiment le...
Oui, je pense que dans toutes les religions, polythéistes ou à plus forte raison monothéistes, il y a une boisson fermentée, ou des boissons fermentées.
Oui, mais vous ajoutez quelque chose d'assez prodigieux. C'est pas prodigieux, je ne vais pas employer ce mot-là, ça fait un peu bête, mais...
Le vin est prodigieux, en tout cas. Oui, moi, je ne le suis pas.
Quand vous dites que l'une des qualités majeures du vin en termes de représentation, c'est de permettre de s'approcher du mystère.
Oui, bien sûr.
Donc, vous associez le vin au mystère, c'est assez...
Bien sûr. Pourquoi ? Parce que pendant très longtemps, on ne savait pas pourquoi ce jus de fruit, mais comme n'importe quel autre jus de fruit, se mettait à fermenter, à bouillonner, puisque c'est une espèce de génération spontanée. Il faut attendre Pasteur pour savoir ce que sont les levures. Il a découvert ça avec quoi ? Avec du vin d'Arbois, d'ailleurs, hein, puisque c'était dans sa maison d'Arbois. Donc, c'est ça, le mystère. Vous avez un liquide sucré, agréable, puis d'un seul coup, il se met à chauffer, à bouillonner, et vous le buvez, et vous éprouvez des sensations merveilleuses, euphoriques, vous êtes plus sociable, et en même temps, si vous en abusez, vous vous oubliez, et à ce moment-là, il y a une dégradation. Donc, vous êtes obligé de savoir jusqu'où vous pouvez aller. Sinon, vous faites comme Noé, et avec les conséquences...
Donc, formidable outil d'éducation, quoi.
C'est un extraordinaire outil d'éducation, évidemment. Mais comme tout ce qui naît d'un mariage intelligent et intime entre notre environnement et notre intelligence humaine. Et
ça, c'est le reflet de la condition humaine, le vin.
Ah oui, comme dans la liturgie catholique, quand on dit le vin, fruit de la terre et du travail des hommes, le travail des hommes, c'est pas seulement le travail manuel, c'est le travail de l'esprit et de la créativité, de l'âme. En fait, un bon vin, c'est un vin qui a une âme. Ça se dit. Je le dis couramment.
Qui exprime le génie d'un lieu.
Le génie d'un lieu. Et le lieu, c'est pas seulement le sol et le climat. Le lieu, c'est aussi les gens qui sont ancrés dans ce terroir. Ce sont les vignerons et leur tradition, qui est parfois millénaire. Pourquoi en géographie le vin est si important ? Parce que qu'un endroit puisse produire avec le talent des hommes un produit qui ne ressemble à aucun autre, qui ne ressemblera pas à celui qui est produit un kilomètre plus loin, ou 100 mètres plus loin, ou 10 mètres plus loin en Bourgogne, dans ce qu'on appelle les climats de Bourgogne, c'est de parcelle en parcelle que les noms des vins changent, mais les goûts changent. C'est absolument
donc
prodigieux.
Pour comprendre une population, prodigieux. Il faut d'abord goûter son vin.
Bien sûr, bien sûr. Et c'est le drame. C'est pourquoi je ne suis pas tenté de me convertir à l'islam, parce que le drame de l'islam, c'est pas d'interdire le vin en soi, encore que, mais c'est surtout de dire, si vous êtes sage, vous en aurez au paradis, puisqu'il coule des fleuves de vin au paradis. Et je trouve que c'est trop cruel. Donc moi, je dis à mes amis musulmans, vous n'avez pas le droit d'en boire, sentez-le, au moins vous aurez une petite idée de ce qu'est le paradis, peut-être ça vous aidera à y parvenir.
Alors là, vous nous donnez quand même une vision paradisiaque du vin, mais par rapport à cela, quand on regarde l'évolution financière autour du vin, à la fois les raisons pour lesquelles certains s'intéressent au vin et investissent dans le vin, et puis surtout la mondialisation de la propriété des grands vignobles français. Certains sont inquiets quand même. On se dit là-dedans, où est le bonheur, où est le plaisir ? Est-ce qu'il n'y a pas une affaire d'argent purement et simplement ?
Il n'y a pas de raison d'être inquiet.
Non,
on critique le fait qu'il y ait des vins type Cheval Blanc, Ikem, etc. à 1000 euros la bouteille. Pour les millésimes 2009 ou 2010, par exemple. Bon, très bien. Moi, je ne peux pas en acheter. Peut-être vous pouvez en acheter. Mais après tout, ce n'est pas grave, parce que je connais des vins qui, pour 15 euros, vont me procurer un plaisir presque aussi grand que celui d'un vin à 1000 euros.
Vous avez un titre formidable, là, il faut que je retrouve. Les vins de l'impossible, c'est ça.
Les vins de l'impossible, c'est les vins qui sont produits dans des lieux improbables, c'est-à-dire sous les tropiques, dans les zones très froides, dans les pays musulmans. Bon, il y a aussi des gens qui achètent du vin, non pas pour le boire, mais pour le conserver, spéculer et le revendre avec un gros bénéfice. Et moi, je dis, arrêtons, parce que ça, c'est un peu comme le commerce des indulgences qui a provoqué les guerres de religion.
C'est ce que je voulais vous faire dire.
Donc, je suis très contre. Je m'en fiche, à vrai dire, complètement.
Mais ça crée quand même un autre climat, parce que...
Oui, mais c'est bon, moi je fais pas comme ça, j'achète des vins pour les boire. J'aime boire le vin et de caresser les bouteilles en disant, j'attends encore 2-3 ans, mais je l'ouvrirai quand elle sera à point. C'est un plaisir formidable, mais de savoir qu'on va le boire, sauf si on meurt à ce moment-là, il faut avoir des descendants bien élevés de façon à ce qu'ils puissent en profiter, mais il faut toujours avoir du vin d'avance dans sa cave, c'est l'évidence même, ne pas boire les vins tout de suite ou les acheter au moment où ils doivent être bu, c'est le moment où ils sont le plus chers. Il faut acheter des vins plutôt jeunes et les faire vieillir, parfois 3 ans, 5 ans, 10 ans et pourquoi pas 50 ans. Non, je réponds à votre question sur les investissements étrangers et en particulier ce qui a défrayé la chronique ces dernières semaines, c'est l'achat du château de Gevrey-Chambertin par un Chinois. Et alors, quel est le problème? Le Chinois ne va pas déménager les 2 hectares de vignes et le château de Gevrey-Chambertin. C'est au contraire un hommage extraordinaire rendu à la France. S'il n'y avait pas eu les Anglais et les Allemands achetant de la terre à 3 sous dans le Médoc, jamais nous n'aurions le château Lafitte Rothschild. Les Rothschild sont venus d'Allemagne. Les Lawton et les Barton, château Langlois-Barton, sont venus d'Angleterre. Vous avez des Irlandais, vous avez des gens de partout en Europe du Nord qui ont créé ce claret, ce New French claret qui nous enchante aujourd'hui, ces grands vins de Bordeaux. S'il n'y avait pas eu les ducs de Bourgogne qui étaient, bon, ils étaient des Valois, ceux qui ont le plus fait pour le vin, mais enfin qui étaient implantés dans les Flandres, jamais il n'y aurait eu les grands vins de Bourgogne. Et le vin, ben finalement, nous, c'est une partie importée de notre culture qui est venue par l'Empire romain. Et l'Empire romain, il le tenait de la Grèce. Et la Grèce, elle le tenait de la Mésopotamie et de l'Égypte et des Hébreux. Donc tout ça, c'est.
Donc la mondialisation,
elle a toujours existé en matière de vin. Donc moi, ça ne me choque pas du tout. Et que des Français, parce qu'il ne faut pas oublier ça. Il y a aussi des Français qui ont investi en Argentine, au Chili, en Californie, et tant mieux. C'est merveilleux.
Alors j'aimerais que vous m'expliquiez quelque chose, parce que dans la préface que vous avez réalisée pour l'excellent premier livre de la collection de Canal Académie sur les savoir-faire français d'excellence, collection qui s'appelle Patrimoine de France, et le premier livre, donc, c'est L'art du cognac, vous avez écrit une préface qui vous ressemble bien, et vous avez dans cette préface employé cette formule « Le cognac, c'est un subtil esprit de vin ». Qu'est-ce que ça veut dire ?
La distillation, ça sert à concentrer un certain nombre d'éléments d'une boisson fermentée. En l'occurrence du vin, pour ce qui est du cognac, qu'on distille 2 fois. Et on concentre quoi ? On pense toujours à l'alcool. Bien sûr, la distillation, c'est fait pour concentrer l'alcool. Mais on concentre aussi d'autres principes qui sont des principes vitaux et des principes qui expliquent la personnalité du vin. Et on les concentre. Or, je ne sais pas si vous avez déjà bu du vin qui sert à distiller pour faire du cognac. Ce n'est pas très bon à boire. Mais après concentration et vieillissement sous bois, à l'abri de l'air et de la lumière pendant des années, voire des dizaines d'années, là, vous avez quelque chose qui est l'essence même. Vous touchez au cœur même de ce qu'est le raisin et de ce qu'est le vin. Donc, c'est de l'esprit de vin, c'est de la quintessence. C'est de la quintessence de vin, le cognac.
Pas étonnant qu'on prenne son temps pour le boire, quoi.
Il faut prendre son temps, il ne faut surtout pas l'avaler d'un coup. Et si on est dans l'incapacité d'en boire pour diverses raisons médicales ou même culturelles, eh bien, on en parle.
Vous racontez l'anecdote
de Talleyrand. Talleyrand, voyant quelqu'un à qui l'offre du cognac boire d'un coup son verre, dit non, monsieur, c'est pas comme ça. Hein, le cognac, vous le mirez dans votre verre, vous le humez. Et après, dit son interlocuteur, après, monsieur, vous posez votre verre et on en parle.
Dernière question, vous avez beaucoup écrit aussi sur des sujets religieux, je l'évoque, parce que comme on vient de parler de divin, on vient de parler de... Vous, qu'est-ce que vous attendez des responsables des grandes religions aujourd'hui face aux menaces fondamentalistes de tout genre ? Vous pensez que ces responsables sont capables de nous éviter un affrontement de civilisation ou que ça les dépasse aujourd'hui, que c'est déjà au niveau de la politique et...
À condition qu'ils soient éduqués. Le problème de l'islam, c'est que l'islam manque d'imams éduqués qui ont fait de la philo. Aujourd'hui, pour être prêtre catholique ou pasteur protestant ou rabbin, on fait de la philo et on apprend à raisonner. La religion n'est pas ennemie de la raison, bien au contraire. Or, malheureusement, il y a quelques imams éclairés, qui sont d'ailleurs plutôt en danger actuellement, mais il y a malheureusement, l'islam, c'est la soumission, comme vous savez, l'origine du mot islam, c'est très beau, la soumission, ça existe dans toutes les religions, on se soumet au divin, mais on se soumet tout entier, avec sa raison, et on n'abdique pas sa raison, donc je trouve que le danger, il est là, mais comme il a été à d'autres moments, dans les autres religions monothéistes, quand je rencontre à Jérusalem des fondamentalistes juifs, j'ai un peu froid dans le dos. Certes, ils ne sont pas armés, heureusement, mais il y a une intolérance dramatique face aux juifs qui sont moins pratiquants, ou quand on voit au mur l'arrogance d'un certain nombre de fondamentalistes au mur de Jérusalem, c'est terrifiant. Il y a eu la même chose dans nos religions, catholiques et protestantes, hein, les guerres de religion ne sont pas à notre honneur, à notre
gloire. Mais qu'est-ce qui peut nous permettre de dominer ça aujourd'hui? Est-ce que vous avez de l'espoir que...
Bien sûr, j'ai l'espoir. Oui.
Qu'est-ce qui va nous permettre de...
Moi, je suis croyant, donc je crois en la grâce de Dieu, et je pense que la grâce va inonder la planète.
Je l'appelle de mes voeux. En attendant que la grâce nous tombe dessus, comme pour Claudel, et avec bonheur. Hein.
Avec bonheur, oui.
Qu'est-ce qu'on peut faire?
Il faut tenter de convaincre sans cesse, et s'appuyer sur l'intelligence humaine. Donc, je reprends mon exemple d'Abu Dhabi, puisque j'ai eu la chance de pouvoir ouvrir une antenne de la Sorbonne à Abu Dhabi. Je me souviens très bien la négociation avec les princes et le gouvernement d'Abu Dhabi. C'est quand j'ai demandé la liberté d'expression, aucune censure sur les programmes et sur la bibliothèque, enseignement laïque. Et donc, il n'y a pas de mosquée sur le campus de la Sorbonne à Abu Dhabi, et mixte. Ça les a un peu surpris. Et après discussion, ils ont accepté. Je me dis, voilà l'islam éclairé.
C'est ça. Et aujourd'hui,
oui, ça
comment
continue,
réagissent
ben, ça, fait, ça, ça continue comme selon le contrat que nous avons signé. Et je trouve que c'est un gouvernement éclairé. Certes, ils voulaient, pour des raisons de prestige, avoir la Sorbonne, mais ils ont accepté ces conditions. Et donc, je me dis qu'ils sont un modèle pour les pays musulmans. Je n'aurais pas pu faire ça, malheureusement, en Arabie Saoudite, ni même peut-être au Qatar.
Ainsi s'achève cet Essentiel, dont l'invité était donc aujourd'hui le géographe Jean-Robert Pitt, personnalité qui compte dans le monde universitaire, et chemin faisant, vous avez dû vous rendre compte, comprendre pourquoi il a ce poids et cette influence. Jean-Robert Pitt, qui a été de 2003 à 2008 le président de Paris-Sorbonne, et qui a été élu donc en 2008 membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Jean-Robert Pitt, merci.
Merci à vous.
Et merci à tous et à toutes d'être avec nous.